Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 143. Thierry Béliot, des rêves de solo. Chers amis, bonjour. Alors, je sais, la musique est précisément la guitare électrique. C'est toute votre vie. Et pourquoi ? Parce qu'un jour, à la télé, vous avez vu Elvis Presley, ou peut-être c'était Johnny Hallyday, et vous vous êtes dit, ce mec, il a tout l'argent du monde, il a 3 Cadillacs, et toutes les filles s'accrochent à ses bras. Et ça a suffi pour que vous ayez envie d'apprendre la guitare. Alors, dans « Vous l'avez bien connu », notre très sérieuse émission culturelle sur Radio Judaïka Strasbourg, j'ai invité un sacré guitariste. Il a joué dans plein de groupes en Alsace. Il est français de l'intérieur, hein, comme on dit, mais il est alsacien depuis un demi-siècle. Alors vraiment, franchement, ça compte. Hein, même au bout d'une demi-heure, on est alsacien, donc c'est parfait. Thierry Béliot. Bonjour Thierry Béliot.
Bonjour Ambroise.
Et alors, avant de raconter votre vie, parce que vous êtes motard, vous avez été sondier à FR3, c'est-à-dire preneur de son, j'aimerais vous demander pourquoi l'un des groupes que vous avez fondé, ça s'appelle Wake Up Woods. Pourquoi ce groupe a un nom typiquement strasbourgeois, réveillez-vous les bois, réveillez-vous les arbres. Est-ce que l'anglais et le rock, c'est vraiment indissociable?
On peut dire ça, quasiment indissociable. Bon, il y a quelques exceptions, mais elles sont rares. Hein, de faire sonner le blues dans d'autres langues. En français, moi, j'en connais qu'un, c'est Bilderham qui avait fait « Il faut que je me tire ailleurs ». Ça, c'est
oui, voilà.
Un vrai blues en français. Non, le blues, le rock, la country, c'est des musiques qui sonnent en anglais parce qu'elles sont faites pour ça, pour les sonorités de la langue anglaise.
Oui, alors, il y a des groupes qui s'appellent, par exemple, Téléphone ou Police.
Oui.
Alors là, ça marche en anglais et en français.
C'est vrai, c'est vrai. Bah, en fait, j'avais créé avec les sœurs Jacob, Linda et Katia Jacob, un magnifique trio à l'époque qui s'appelait Woods. Alors Woods, c'est un nom extraordinaire pour un groupe de rock ou de country. Mais ça avait été pris par personne, on a cherché.
Ah,
il
n'y
avait pas d'autre groupe qui s'appelait Woods. Donc on a fait un très beau trio, c'était magnifique, qui a duré quelques années et qui était, voilà, je garde un souvenir, c'est peut-être ce que j'ai fait de plus beau dans ma vie de musicien. Et puis on a dû arrêter pour différentes raisons, et puis avec Katia, la bassiste, on s'est dit, il faut qu'on fasse un autre groupe, et elle, avec sa sœur Linda, elles avaient un trio de femmes qui s'appelait Wake Up Betty, c'était très bien comme
voilà
nom
aussi,
ça.
Oui.
Et comme les deux s'étaient arrêtés, Woods et Wake Up Betty, on a réuni les deux.
Oui.
Et ça a donné Wake Up Woods, voilà. Tout naturellement.
Et Roger Siffer se moquait pas de vous, là.
C'est peut-être. Roger, oui. J'en ai pas parlé avec lui. Roger, il me connaît comme ingénieur, mais pas comme musicien. Donc,
voilà,
on n'a pas abordé ça.
C'est un petit monde, quand même, la musique à Strasbourg. Alors, tout de suite, votre voix. Quand vous chantez, parce que vous chantez aussi un petit peu, on a l'impression que c'est Tom Waits. Alors, je ne veux pas rentrer dans votre intimité, mais qu'est-ce qui vous est arrivé pour avoir cette voix?
J'étais chanteur.
C'est la cigarette, l'alcool.
Pire que ça. Non, j'étais chanteur longtemps dans les groupes de country blues, de rock blues. Et puis, j'ai eu un petit truc, un petit kyste sur la thyroïde à faire enlever. Et puis, le chirurgien, il a dû donner un coup de bistouri de travers. Enfin, bon, bref. Toujours est-il que je me suis réveillé, je ne pouvais plus parler. Il m'a coupé un nerf récurrent, c'est-à-dire que j'avais une corde vocale paralysée. Et pendant 2 ans, quand j'allais chercher le pain, je montrais le pain à la boulangère. Il n'y avait que de l'air chaud qui sortait de ma bouche, quoi. Et j'ai fait 2 ans de rééducation avec un orthophoniste pour pouvoir arriver à m'exprimer. Ce qui est déjà pas mal. Mais pour chanter, j'ai du mal à chanter, je chante un petit peu, mais c'est pas très beau, et puis j'ai un peu du mal à contrôler.
The piano has been drinking.
Voilà.
C'est ça.
Ou alors il y en a un autre qui est un peu moins connu, mais que j'adore et que je sais que vous aimez bien, c'est Toons Van Zandt.
Oui, bien sûr.
Qui a aussi une voix complètement éraillée et tout. Mais alors lui justement, c'est...
Lui, c'était les produits, les différents produits toxiques.
Interdits et qui sont liés
à la musique. Chose très abrasive.
Oui, oui. Alors, quel genre de rock? Alors, est-ce qu'on dit le rock ou le blues ou c'est la même soupe?
C'est ça qui est magnifique.
Vous faites aussi de l'irlandais.
Enfin, c'est ça.
Oui.
Il faut dire que moi... Vous connaissez bien Samboise, on a vécu dans les années 70 à une époque où il y avait la musique. Il n'y avait pas les musiques, il y avait la musique. On aimait, on écoutait de tout. On écoutait du jazz, on écoutait de la musique psychédélique, on écoutait de la musique folk. C'était la grande époque des revival folk. Avec
on écoutait aussi Stockhausen, Benio,
oui,
Kagel.
Moi, j'avais les disques chez moi dans les années 70. Hein. Les grands vinyles de la musique contemporaine de Pierre Schaeffer ou de Michel Sion. Et à côté de ça, j'écoutais de la musique cajun que j'avais découvert un jour. Et on écoutait tout ça parce qu'à l'époque, comme on n'avait pas Internet, on n'a pas cet afflux de musique. Quand une musique arrivait à nous, on l'écoutait.
Oui,
on n'allait pas chercher ailleurs. Il y avait un truc qui arrivait. Un copain avait un disque qu'on n'avait jamais entendu. Qu'est-ce que c'était? On s'en fichait, on l'écoutait.
C'est Crosby, Stills, Nash & Young.
Et donc, il y avait, on écoutait tout et on aimait ce qu'on aimait. On n'était pas obligé d'aimer tout. Mais on pouvait être aussi bien fan de musique bretonne que de musique psychédélique. Et tout ça, quand on faisait de la musique avec des copains... on faisait du blues, on faisait de la musique irlandaise, on faisait du rock, c'était de la musique.
Voilà. Et en fait, votre professeur, c'était les 33 tours, alors?
Les 33 tours, et puis assez rapidement, j'ai quand même eu la chance, ce qu'on pourrait appeler les premiers multimédias, entre guillemets, c'est qu'il y avait des artistes américains, comme Chet Atkins, qui produisaient des disques avec des tablatures. Et on avait des amis un peu plus grands que nous, à l'époque, dans les années 70...
Qui avaient fait du solfège.
Alors, c'est pas du solfège, c'est-à-dire que les tablatures, c'est une façon d'écrire la musique qui date du Moyen-Âge, hein, c'est très ancien. Mais on ne marque pas des notes, on marque, il y a des lignes qui représentent les cordes de l'instrument, et des chiffres qui représentent là où on doit mettre les doigts, quoi. C'est une façon d'écrire la musique sans solfège. Et donc, avec les tablatures, moi j'avais appris la guitare, j'avais pris des cours de guitare classique, je connaissais le solfège, mais... Ça a permis, ça a donné un entrain nouveau. Et à l'époque, il y avait Marcel Dadi qui est apparu en France et qui a amené la guitare picking de Chet Atkins et qui lui aussi a mis des tablatures dans ses disques. Et là, ça a été chose de très nouveau. Maintenant, les tablatures...
Cet aspect pédagogique.
Encore, l'esprit des années 70 était là. C'est-à-dire que maintenant... Quand un jeune guitariste, il y a une musique qui lui plaît, il cherche sur Internet, il trouve la tablature, il trouve les accords, il trouve des tutoriels pour les l'apprendre. Voilà, c'est très bien.
Oui, apprenez la guitare en 10 leçons.
Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Non, mais c'est magnifique, je ne renie pas ça. C'est magnifique, c'est une grande chance pour les musiciens de maintenant. Ce qui fait qu'ils ont un niveau énorme, les musiciens de maintenant. Ils sont bien meilleurs que nous. Les jeunes guitaristes qui jouent dans des groupes maintenant ont un niveau... extraordinaire, un niveau terrible que nous, on n'osait pas imaginer un jour. Quoi. Non, ils sont très techniques, ils sont les jeunes batteurs maintenant dans les groupes. Ils sont... Mais nous, à l'époque, on ne cherchait pas les tablatures.
Vous dites à l'époque, on va dire, vous avez 70 ans.
Hein. J'ai 70 ans.
Donc vous êtes un petit jeune quand même.
À l'époque, on ne cherchait pas les tablatures des musiques qu'on aimait. Quand on tombait sur une tablature, on avait la chance de trouver une tablature, on la jouait.
C'est vrai.
On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est comme morceau? On essayait de trouver, et puis on jouait ça parce qu'on était tombé sur une tablature, c'était déjà une chance.
D'accord, mais le choix, c'était donc la musique, peut-être nouvelle et tout, mais c'est aussi le sens des paroles, des chansons mêlant humour noir et désespoir criant.
Curieusement, les paroles, on s'en foutait un peu, je veux dire.
Ah oui.
Non, ce qui comptait, c'était la sonorité, bien sûr... Quand on écoutait Jimi Hendrix qui chantait
Purple Haze,
ou alors cette chanson extraordinaire où c'est un gars qui revient du Vietnam et qui frappe à la porte chez lui et ça ça, la serrure, la clé ne rentre pas dans la serrure. Et il comprend que c'est que bah, sa femme qui est intérieure ne veut plus de lui. Et alors c'est un grand désespoir, autant dans la musique, dans la guitare que dans la voix, on sent le désespoir de ce type qui a affronté la mort dans les marais du Vietnam et qui ne peut plus rentrer chez lui. Et la dernière phrase de la chanson, c'est « Mais si tu veux plus de moi, ta sœur voudra bien ». Donc il y a ça dans le blues,
oui.
Et dans cette musique-là, c'est le grand désespoir, mais finalement, on va s'en sortir, parce que si on chante et si on fait du blues, c'est qu'on est déjà passé dans un stade d'acceptation et de... Et on l'exprime, donc déjà on en souffre moins.
Oui, The Deer Hunter.
Donc ce qui comptait, c'était les sonorités. Et,
est-ce qu'on pouvait chanter en anglais sans comprendre un seul mot de l'anglais en apprenant la langue phonétiquement, quoi?
Voilà, et on faisait pire que ça, on chantait en yaourt, hein, donc ça existe encore. Hein.
Voilà, expliquez-nous chanter en yaourt, c'est rigolo.
Alors
ça.
Le yaourt, bah, c'est faire semblant de chanter en anglais et en disant n'importe quoi, juste des sons qui ressemblent à de l'anglais. Des groupes, je connaissais un gars qui chantait, qui disait Oh Mama tout le temps dans ses chansons, mais parce qu'il avait entendu dire ça, ça lui plaisait. Mais
oui.
C'était voilà. Donc l'important, c'était que ça sonne.
I can no get no.
Voilà. Ah ben, on avait tous appris phonétiquement les chansons des Beatles sans savoir ce que ça voulait dire.
Oui, pourtant, il y avait les paroles derrière. Hein.
Mais
il n'y avait pas Google Traduction
et
encore.
Et puis, on n'avait pas tous les disques, parce que ça coûtait très cher, les disques.
Oui.
Donc, un copain en a acheté un, on l'écoutait chez lui, puis après...
Voilà, le 33 tours, il tournait.
Pas forcément dans la maison, dans les
Alors,
mains.
Dites-moi,
quoi.
Quels sont les trois premiers disques que vous ayez eus?
Alors, il y avait des disques chez moi, parce que mon père était un fan de musique, il écoutait beaucoup de musique classique, il avait des disques de jazz. Les premiers disques que j'ai achetés, moi, c'était Doc Watson. Doc Watson, c'est un des grands maîtres de la guitare country, c'est l'inventeur du style hillbilly. Je l'ai vu à Strasbourg avec son fils Merle. Doc Watson, c'était un musicien aveugle qui a inventé un style, enfin, c'est un géant de la guitare. Qu'un jeune guitariste actuellement qui s'appelle Billy String, hein, pas un guitariste, il faut le faire, mais qui a repris complètement le style de Doc Watson et le joue maintenant, et ça plaît aux jeunes, et ça, je trouve ça extraordinaire. Voilà, Doc Watson, je crois que j'ai dû acheter un disque de musique irlandaise, de Planxty, un groupe que j'admire toujours, le plus grand groupe de musique irlandaise de cette époque-là, voilà. Et puis, sans doute aussi un disque de jazz, c'était John Coltrane, My Favorite Six.
Ah ben voilà, c'est très éclectique. Alors, c'est le moment de vous demander, alors, pour vous présenter, j'ai dit Thierry Béliot, qui rêve de faire des solos. Bon, ça rime, et puis en même temps, alors, quel est le meilleur guitariste au monde? Alors, ou celui que vous préférez. Alors moi, je vous donne mon tiercé, comme ça, ça vous obligera peut-être à trouver quelqu'un d'autre. C'est Eric Clapton, Jimi Hendrix et Jeff Beck.
Ah ben, je suis désolé, je suis dans les trois.
Ah bon,
pour moi, non. Pour moi, il est impossible de dire qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que Jeff Beck. Jeff Beck, il n'a pas le même éclat que les deux autres, c'est pas... Mais Jeff Beck, au niveau du jeu de la guitare...
Oui, c'est... Absolument.
Et non, et tout le monde
génial.
Le dit, Clapton le dit à chaque fois qu'il en parle. Jeff Beck, c'est le contrôle du son.
Et vous l'avez vu?
Oui, je l'ai vu au Palais des Congrès à Strasbourg.
Ah,
j'étais au deuxième rang, devant lui, à 4 mètres de lui. Et je me souviens de chaque seconde du concert. Et non, c'est un musicien extraordinaire qui était très discret.
Qui
n'a jamais chanté.
Oui.
On n'a jamais entendu le son de sa voix parce qu'il ne parlait pas beaucoup.
Oui.
Quand il avait fini ses concerts, il rentrait chez lui bricoler ses voitures. Et par contre, il savait faire éclore des talents.
Il était souvent invité par d'autres musiciens pour jouer sur leur truc.
Aussi.
Alors, je vais vous épater. Moi, j'ai vu Jeff Beck. Alors, c'était au Canada. Il jouait avec Frank Zappa.
Ah oui,
une journée, comme ça, il était venu.
Et Jeff Beck était capable de faire un disque de jazz rock avec Zappa, et puis faire un disque de reprise de
Beatles. Et de remplacer quelqu'un au pied levé.
Il faisait tous les styles. Par contre, il n'était pas sensible au mode. Il n'a pas fait comme Clapton, que j'adore.
Oui.
Mais Clapton a fait du reggae quand c'était l'homme du reggae.
Oui.
Voilà, c'est des gens qui ont... Jeff Beck, il a toujours fait ce qu'il avait eu envie de faire. Il a fait deux disques de R&B dans des studios électro en Angleterre. Oui. Qui sont exceptionnels, ouais. Ces disques.
Mais il n'a pas monté de groupe. Hein. Enfin, il a joué avec Carmine Appice.
Il a joué avec les Bluesbreakers. C'était, ouais. Voilà, il a remplacé Clapton, ouais. Le Bluesbreaker. Mais non, il n'a pas eu... Il a joué en son nom. Et il a fait venir, il a fait jouer...
Il Better. Était britannique ou américain?
Il était anglais.
Il était anglais, ouais. Ok, voilà. Alors, je sais que vous avez 35 guitares. Restez assis, chers auditeurs de Radio Judaïque à Strasbourg. Thierry Béliot a 35 guitares et même des banjos. Hein. Voilà, alors on va parler du banjo, c'est grâce à Délivrance, hein, c'est ça?
Non,
à voir. Donc,
non,
le film bien, Délivrance qui donna envie à plein de gens.
Bien sûr.
Oui. Et alors,
on pourrait parler de Délivrance. Mais
alors, quand vous jouez sur scène, vous n'avez pas vos 35 guitares à côté de vous pour changer à chaque morceau?
Je change à chaque morceau.
Ah,
ça,
oui.
C'était ça, dans les groupes où j'ai joué, c'était un peu ma difficulté, c'est que voilà, j'ai jamais pu m'empêcher de varier les sonorités, d'avoir des instruments différents. Et donc, c'était j'étais connu pour ça. Hein. Alors, j'avais pas 35, mais j'arrivais avec 5 ou 6 instruments. Je changeais, j'ai même joué, je joue toujours maintenant de l'accordéon diatonique pour varier un peu aussi. Mais voilà, des guitares, des banjos, des mandolines. La mandoline a été avec Wake Up Woods, mon instrument principal, le bouzouki irlandais.
Vous avez une strato. Caster, oui. Une Gibson, une Fender, ou alors des copies, parce que je sais qu'on fait beaucoup.
Enfin, j'ai pas de...
Il faut beaucoup d'argent, quand même.
Oui.
Et il faut de la place, parce qu'on ne les met pas sous le lit.
J'ai une pièce pour ça, une petite pièce, pas très grande, mais bon, dans la mansarde chez moi. Mais j'ai, c'est plutôt que... Les instruments, c'est comme les gens, c'est des rencontres. J'ai très peu d'instruments neufs, j'ai dû en acheter peut-être 2, des instruments neufs, à un moment où j'avais absolument besoin d'une petite mandoline pour jouer dans les bars, donc j'avais qu'une très belle Gibson d'avant-guerre, donc je pouvais pas la risquer dans les bars, voilà. Donc, mais mes instruments sont tous des instruments exceptionnels, pas dans le sens de la valeur marchande, mais des instruments spéciaux qui me sont arrivés par hasard, ou parce que je les ai cherchés pendant longtemps, et ça c'est un instrument que j'ai cherché pendant des années avant de les trouver, et qui sont venus à moi par coup de chance, et que j'ai pas toujours acheté cher, parce que c'est souvent des instruments anciens, d'occasion, voilà, que j'ai pu négocier sans y mettre des fortunes. Mais lors des copies, pourquoi pas. Il y a des marques comme Yamaha, Ibanez, des marques japonaises qui font des instruments absolument parfaits, magnifiques. J'ai deux Ibanez très bien, parce que c'est très bonne guitare, notamment pour les guitares de jazz, c'est très très bonne guitare. Et j'ai pas de culte par rapport aux grandes marques, mais il faut dire forcément que les grandes marques américaines, Martin pour les guitares acoustiques, comme celle que j'ai là, ou Gibson et Fender, bon, forcément, ils ont inventé ça. Alors, d'ailleurs, la Stratocaster dont vous parlez, elle est sortie en 1955. Sacrée année, quand même, 1955. Ah oui. C'est pas parce que je suis né cette année-là, mais quand même, 155. La sortie de la Citroën DS19, le premier vol commercial de la Caravelle, deux fois la SNCF bat le record de vitesse sur rail.
Oui.
Le rail à 300 km/h. On invente la Stratocaster, ça fait beaucoup pour une année.
La préférée de Jimi Hendrix.
Voilà.
Hein. Voilà. Alors, vous êtes en tournée, vous jouez le soir dans des bars aussi, hein, parce qu'il y a l'ambiance, c'est formidable. Puis il y a eu le Covid, c'était la catastrophe. Hein, et je crois qu'après le Covid, les salles n'ont pas ouvert.
Tout a changé. On avait, avant le Covid, avec mon groupe Kaputz, on avait des habitudes, on jouait pas mal en Allemagne, il y avait des Irish pubs en Allemagne qui nous faisaient venir une ou deux fois par an de façon très régulière et tout ça. Et tout ça s'est écroulé, donc ça a été plus difficile après de relancer la machine.
Alors vous avez fait l'expérience du duo, vous étiez à deux, et ça c'est une expérience assez spécifique par rapport à l'esprit de la musique du groupe. Pourquoi ça n'a pas marché?
Alors ça n'a pas marché parce que voilà, je m'en suis pas senti la force, j'ai envisagé un projet un peu trop ambitieux avec une chanteuse beaucoup plus jeune que moi et qui avait beaucoup plus d'énergie que moi. Un groupe à géométrie variable, on pouvait jouer avec plusieurs personnes, mais dans certains cas, on était obligé de jouer à deux. Et jouer à deux, c'est de très loin ce qui est le plus difficile dans la musique. Si on joue tout seul, on peut s'arranger avec soi-même, on se débrouille.
On triche.
Voilà. Quand on joue dans un groupe, si on a un petit moment d'hésitation, ou un petit blanc, ou alors une petite baisse de tonus...
Vous êtes couvert par
les autres. On arrive, voilà, on jette un peu une oreille, on écoute le bassiste ou le batteur, et on se rattrape. Quand on est à deux, s'il y en a un des deux qui flanche un tout petit peu, c'est l'ensemble qui tombe. Et voilà, donc j'ai lancé ce projet un peu tard par rapport à ma forme physique, à ma santé. Et donc j'ai été mis au pied du mur et voilà, je me suis dit stop, ça, voilà, c'est plus de mon âge, j'ai plus la force. Et donc j'étais obligé d'arrêter.
Vous allez jeter l'éponge. Mais quand vous jouez tout seul chez vous, par exemple, vous improvisez, vous ne jouez pas un morceau
Si, je joue des morceaux, j'en compose aussi. Hein. Oui. Donc j'ai mes morceaux. Donc j'ai un ami qui vient de monter un studio d'enregistrement. Et alors j'ai la grande chance maintenant d'avoir un studio avec un ingé son à ma disposition. Je peux y aller quand je veux. Il me dit, mais viens. Voilà.
Bon, alors, allez-y maintenant.
Voilà.
Hein, nous sommes sur la Radio Judaïcaï Strasbourg. Vous avez votre guitare. Alors, c'est ce qu'on appelle une guitare sèche.
Hein, guitare sèche, c'est un terme français qui ne veut pas dire grand-chose. Ça se rapportait à les guitares sèches dans les années 60. C'était des guitares qui venaient du monde du jazz, plutôt jazz manouche. Mmh. Voilà. Donc, on appelle ça une flat-top guitare.
D'accord.
Parce que les Américains, pour les guitares acoustiques, il y a deux types. Il y a les guitares plates,
oui.
Et les arch-top guitares qui sont en comptable bombé. Ça, bon. C'est une flat-top.
Alors, mi, la, ré, sol.
Si elle est en mi, je ne sais pas, parce que, vous savez, on change beaucoup hein, dans la musique américaine. Je vais enlever mes lunettes parce que ça va cogner. Donc là, les premiers, la, ré, sol, elle est en ré, là. On appelle ça job D. Job D, ça veut dire que là, on descend la corde de mi en ré, donc job D. Justement, j'ai joué quelque chose qui va peut-être vous rappeler.
Alors, on va jouer, je dois deviner, non?
Oui.
Oui, ah, bon.
C'est quelque chose qu'on a en commun.
Ah. Alors là, je donne ma... Pain, 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 pain.
Ben alors là, c'est un grand musicien danois qui jouait dans deux groupes très connus, un groupe de psychédélique et un groupe de blues acoustique. C'est Jorma Kokkonen, le guitariste de Hot Tuna et de Jefferson Airplane.
Ah, voilà.
Tuna, ça vous dit quelque chose?
Oui, Tuna, Jefferson Airplane, voilà. Jerry Garcia de Grateful Dead, et
la West Coast, et Grace Leake, la chanteuse de la magnifique chanteuse.
Ah oui. Et puis Papa John Creech au violon. Voilà.
Donc, et ça c'était une grande.
Ça nous rajeunit, sur Radio Judaïque à Strasbourg. Alors, dans les tournées, quand on joue, c'est quoi le meilleur? C'est l'ambiance dans la salle, la cohésion avec les copains, ou alors est-ce que c'est le resto après le concert?
tout ça, c'est tout. Sûr que... Non, bien sûr, la cohésion avec le public, c'est sûr que moi, j'adorais jouer dans des bars, dans les pubs, surtout en Allemagne d'ailleurs, parce que c'est très différent en Allemagne. En France, les gens, souvent, ils viennent dans un pub où il y a de la musique et ils se fichent un petit peu, que ce soit un disque ou des musiciens. Ça, alors qu'en Allemagne, les gens viennent... quand il y a des musiciens, il y a une affiche, ils viennent écouter. Et alors, on était surpris à l'époque dans les Irish pubs en Allemagne, qu'il y ait une clientèle très jeune, des gens très jeunes, et qui connaissaient la musique irlandaise, qui chantaient avec nous, et qui étaient très enthousiastes. Mmh. Et puis, qui étaient toujours assez contents de voir un groupe de Français, parce qu'il y a toujours un petit quelque chose dans l'Allemagne.
Ah oui, alors, Thierry Béliot, de retour d'une tournée internationale. Enfin, il a joué à Kiel.
Voilà, hein, c'est ça. Et
voilà. Et alors, quelqu'un a dit, quand quelqu'un me dit de faire quelque chose, j'y réfléchis généralement quelques secondes et je fais exactement l'opposé.
Oui, j'ai lu ça. Alors, je ne sais plus de qui est, la citation, mais je la connais.
Ouais, ah, ouais, c'est bien, c'est un petit peu l'état d'esprit des musiciens qui vont faire, qui vont pas respecter...
Bah, bon, ça, c'est un petit peu le mythe français aussi. Ça, moi, j'appelle ça le mythe Django Reinhardt. Les Français ont acquis ça que, ben voilà, Django Reinhardt, c'était le musicien handicapé, en plus, qui n'avait rien pour lui, qui est devenu un des plus grands guitaristes du monde. Et donc, en France, on dit, pour être musicien, il faut être touché par la grâce, il faut avoir le don, autrement, on n'y arrive pas. Aux États-Unis, c'est différent. On fait de la musique si on en a envie. Et parce qu'on sait que il faut travailler pour ça. Puis si on travaille, on en fera. Non, il faut.
Mais quand même, quand vous êtes sur scène, vous êtes dedans. Il y a la super ambiance, le public hurle. Vous êtes dedans. Puis vous faites des petits signes et puis vous partez faire un solo. Hein, tout de suite. Et alors, le solo, il doit faire 40 secondes, et puis vous faites une minute trente, deux minutes, et les autres, ils vous pètent, et puis il y a le batteur qui veut faire aussi son solo, et puis finalement le bassiste aussi.
Ça arrive dans certains concerts de blues, entre guillemets, je dirais amateur, dans les guitaristes, on dit des groupes de blues qui jouent en mi, parce que c'est plus facile, et qui font des solos d'un quart d'heure. Non, la musique, c'est quand même beaucoup plus réfléchi et travaillé que ça. Dans les groupes, on travaille les structures, on travaille la longueur des morceaux, on sait combien de temps on doit jouer, on sait qui doit faire les solos et en quel ordre. Et ça, on est obligé de le faire pour garder justement l'énergie et la cohésion.
Alors justement, pour avoir cette énergie, pour conclure, cher Thierry Béliot, vous avez 5-6 ans, vous écoutez quand même de la musique parce que votre papa, il a encore des 33 tours à la maison, ou des choses comme ça. Est-ce que vous conseillez d'aller dans une école de musique apprendre le solfège?
Bien sûr.
C'est quand même la base. Hein.
Oui, alors
il n'y a pas que le violon et le piano, peut apprendre déjà à 5-6 ans la guitare.
Moi j'étais 8 ans, mais moi j'ai un petit-fils qui est à Paris, au coin d'un conservatoire. Non, il ne faut pas avoir peur de ça. Le solfège, ça fait pas mal. C'est pas le dentiste. Et puis, une fois qu'on l'a, c'est tellement plus facile.
Ça serait un bon titre de chanson. Le solfège, c'est pas le dentiste. Voilà. Alors, c'était l'épisode numéro 143. Thierry Béliot, des trêves et des rêves de solo. Alors, juste pour terminer, est-ce que... si un soir, vous aviez à choisir, une grande soirée, vous devez jouer sur scène avec des copains et tout, et puis en même temps, le même soir, il y a Clapton qui passe à la salle des fêtes. Qu'est-ce que vous faites? Vous annulez le concert pour aller voir Clapton?
Non, je crois quand même que j'irai faire le concert, mais ça serait pas facile.
Ouais. Enfin...
Bon, cela dit, après, Clapton, je l'ai vu il y a un peu plus d'un an à Paris, j'étais très content. Et puis, mais les grands concerts, les grands messes avec les grands noms, je suis content de les avoir vus. Je suis content d'avoir vu les grands jazzmen, les grands bluesmen.
Vous avez le côté un peu blasé des bluesmen.
Non, c'est pas blasé. Pour moi, la musique, c'est plus. J'ai les meilleurs souvenirs de concerts. J'ai une grande jalousie. Ma fille, qui est comme moi, fan de Neil Young, l'a vue dans un petit concert à Paris, en petit comité. C'est un grand rêve qui m'arrive.
C'est bien, ça peut être le hasard aussi. Voilà. Merci Thierry Béliot. Donc, l'épisode numéro 143 de Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïque à Strasbourg. La semaine prochaine, on change vraiment d'ambiance et ce sera aussi passionnant. J'aurai pour invité un archiviste, Gabriel Breuner, un historien, ancien directeur des affaires culturelles de la ville de Colmar, et nous parlerons des grandes dates de l'histoire religieuse en Alsace, des Romains jusqu'au Concordat. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli. And I can get no satisfaction, but I try. My name is Ambroise Perrin.